C'est rendu, ça devient presque une habitude de venir ici à la fin de l'été à chaque année. Ça fait 3 ans, je pense, que je viens ici à la fin de l'été, comme ça, vers la fin de l'été. Alors, c'est toujours un privilège de venir ici, là où j'ai grandi beaucoup, dans cette église ici, comme Alexandre l'a mentionné. J'ai grandi beaucoup ici. J'ai rencontré Chantal ici. D'ailleurs, on va célébrer notre 8e anniversaire de mariage dans 2 jours. Alors, ça continue. C'est pas juste un début. Merci. Ce matin, je vais parler d'un sujet qu'on ne parle pas beaucoup. C'est un sujet qui semble négligé dans nos assemblées. Je pense pas avoir jamais entendu parler sur ce sujet-là depuis ça fait 27 ans que je suis chrétien. Je pense pas avoir déjà entendu parler du sujet dans aucune assemblée où j'ai été à travers les années. On va parler d'hospitalité ce matin. C'est quelque chose, ce ne sera pas un cours de comment faire les choses pour recevoir les gens. Juste pour vous mettre dans le bain tout de suite. Là. Attendez-vous pas à une recette particulière pour savoir comment recevoir les gens. Ce n'est pas le but de l'intervention ce matin. Ce matin, on a pour but de parler de quel genre d'attitude on ne devrait pas avoir et quel genre d'attitude on devrait avoir lorsque lorsque nous exerçons l'hospitalité, et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Qu'est-ce que devraient être nos dispositions selon la parole de Dieu, dans le fait de recevoir les gens, d'être accueillant et tout ça? Donc, c'est un peu ça qu'on veut aller voir ce matin. Une des idées qui m'est venue lorsque j'ai pensé à ça, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des gens? Quand les gens arrivent chez nous, première chose qui arrive quand on reçoit des gens, en fait, c'est pas la première chose qui arrive, mais c'est la première chose que les gens aperçoivent quand ils arrivent chez vous, quand on les reçoit ou quand on est reçu chez des gens. Une des premières choses qui est mentionnée, c'est « on est content de vous voir, content de vous voir ». Puis on avait tant hâte que vous arriviez, on a fait plein de préparatifs, mais à ce moment-là, quand les gens arrivent, on est content de vous voir. Mais il y a un sous-titre à ça. On est content de vous voir, mais on pourrait dire, vous auriez dû me voir il y a 1 heure ou il y a 2 heures quand j'étais en train de courir partout à gauche, à droite, en train de préparer les choses, en train de faire le ménage, en train de m'assurer que tout soit parfait pour que vous soyez reçus comme on voudrait vous recevoir. Je ne sais pas pour vous, en fait, moi, ce n'est pas le cas, je ne suis pas tellement nerveux de nature, mais de façon générale, ce que j'ai observé dans la vie, c'est c'est énervant à recevoir. Même si on reçoit des amis de longue date, même si on reçoit des gens qu'on connaît très, très bien, on reçoit de la famille qu'on connaît depuis toujours, c'est énervant à recevoir. Et c'est stressant, on se met des pressions. Quand on veut recevoir les gens, on se met une pression qui n'est pas normale. On veut être content de voir ces gens-là, mais toute la journée, c'est la course partout. Peut-être des préparatifs plus longtemps d'avance selon la préparation de nourriture qu'on va faire, mais on est nerveux. On est énervé, on vit une pression ou un stress généralement quand on reçoit les gens, et ça a un impact autour de nous. Et c'est un peu ça qu'on va regarder en première partie ce matin. Comme j'ai dit, ce ne sera pas un cours de savoir-vivre dans le sens où d'étiquette ce matin, mais c'est un cours de savoir-vivre, comment on entre en relation avec les gens qu'on invite chez nous, comment on procède et qui sont les gens qu'on veut inviter dans nos maisons. C'est énervant, la preuve, si vous vous souvenez, il y a une histoire comme ça dans le Nouveau Testament, en fait, dans les Évangiles, où Jésus ils sont reçus avec les disciples et tout ça, ils sont reçus chez Marthe et Marie, et puis il y a quelqu'un qui s'agite beaucoup dans la cuisine, et ça la rend très stressée de voir que sa sœur ne s'implique pas autant qu'elle voudrait dans la préparatif puis dans l'organisation de cette réception-là. C'est normal que ce soit énervant, mais quel impact ça devrait avoir sur nos vies? Comment ça devrait témoigner de l'amour de Jésus-Christ, la façon qu'on reçoit les gens, mais la façon aussi dont on se prépare à recevoir les gens? Le texte de ce matin est bien court et n'en dit pas beaucoup. Mais en même temps, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il en dit beaucoup plus que les quelques mots qu'il utilise pour le dire. Alors, le texte de ce matin, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4 et au verset 9. 1 Pierre, chapitre 4 et au verset 9. Je vais laisser le temps de tourner. J'entends le papier. J'aime beaucoup ça. Voir que vous prenez la peine de tourner. Merci, Jonathan. Tu n'as pas trouvé de pichet, c'est ça. Merci. Ça va. Je pense qu'il y a une petite... Comme à la maison. Merci. L'hospitalité de Jonathan. « Alors, 1 Pierre 4, 9 dit simplement ceci, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ça paraît court pour faire un message de 45 minutes, mais vous allez voir, on risque d'y arriver. Enfin, si je remplirai s'il faut, mais je ne m'inquiéterai pas si je suis de vous. Alors, avant de commencer dans l'information sur le message, le côté pratique du message, j'aimerais qu'on regarde ensemble quatre éléments qui ressortent directement du passage. Quatre idées claires qui me sont apparues dans l'étude du passage. Quatre éléments qui sont d'une clarté puis qui parlent plus que l'impression qu'on pourrait avoir. Si on lit ce texte-là, généralement, quand on va lire ce texte-là, souvent, on pourrait passer facilement par-dessus le texte. Ça passe rapidement, c'est une phrase comme ça, et on la prend pas nécessairement pour nous-mêmes. Il y a quatre éléments importants. Le premier, c'est le verbe « exercer l'hospitalité ». Exercer. Le terme « exercer », c'est un ordre, ce n'est pas une option. Ça ne dit pas si ça vous tente, si ça vous chante, si ça vous fait plaisir, si vous êtes bon là-dedans, exercez l'hospitalité. Non, exercez l'hospitalité. Il vient de parler, Pierre, dans ce texte-là, vient juste de parler de comment on devrait s'aimer d'une ardente charité. Nous devrions ensemble avoir un feu les uns pour les autres dans notre communauté. Et on dirait que c'est un peu une application de ça, c'est exercer l'hospitalité. C'est une façon de manifester l'amour ardent. Donc, d'abord et avant tout, ce n'est pas une option. Exercer l'hospitalité dans notre communauté, ce n'est pas une option entre nous. Maintenant, hospitalité. L'hospitalité, parce que l'hospitalité, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de recevoir. On reçoit les gens chez nous. Donc, c'est quelque chose qui a trait à l'accueil, à l'ouverture de la porte de chez nous. Mais l'hospitalité, si on veut bien y réfléchir, c'est d'abord d'aller vers l'autre. Il ne peut pas y avoir d'hospitalité si je n'ai pas été vers la personne que je veux accueillir, si je ne me suis pas pris l'effort de dire de sortir de mon propre environnement, de mon propre univers, de mon propre habitude, de mes propres habitudes, pour aller puis vers l'autre pour l'accueillir chez nous. Avant de l'accueillir dans ma maison, c'est d'abord une démarche d'aller vers l'autre, c'est d'abord une démarche d'aller vers la personne vers qui on va inviter. Et c'est important de réaliser ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme dans la langue originale nous parle, je vais vous éviter le grec, mais le terme est formé de l'idée de c'est l'hospitalité, c'est l'amitié envers l'étranger. C'est d'exercer une amitié envers la personne qui est de l'extérieur, l'étranger. Donc déjà en partant, c'est sûr que ça prend un pas pour faire ça. Quand on dit hospitalité, c'est d'aller vers l'autre. Évidemment, naturellement, on ne va pas vers l'autre. Naturellement, on ne va pas vers la personne qu'on ne connaît pas. Naturellement, on ne va pas vers la personne qui vient peut-être de l'extérieur, qu'on accueille chez nous. C'est quelque chose qui est habituellement contre nature. Donc, c'est déjà quelque chose qu'il faut renverser dans nos mentalités. C'est que l'hospitalité, c'est quelque chose qui dit, je pars de mon environnement, je pars de ce que je suis habitué, de ma routine, et puis je m'en vais vers l'autre. Je m'en vais moi-même prendre l'initiative vers l'autre. Et on va voir ça plus tard en détail. Maintenant, parce que nous, quand on pense à l'hospitalité, on pense souvent à accueillir nos amis. Hein, l'hospitalité, c'est d'accueillir les gens qui viennent chez nous, qu'on connaît déjà depuis longtemps, on les invite à avoir du bon temps avec nous. Oui, c'est une forme d'hospitalité, je pense qu'il faut la pratiquer aussi, mais l'hospitalité, c'est d'abord d'aller vers l'autre, de nous-mêmes se déplacer, de notre confort vers l'autre personne, vers les autres. Si on se remet dans le contexte de l'époque, l'hospitalité était nécessaire pour différentes raisons. Dans le temps, les missionnaires en déplacement n'avaient pas accès à toute l'hôtellerie qu'on a aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, les missionnaires, on peut les accueillir chez nous, mais s'il ne connaît pas les gens sur place, il va prendre sa carte de crédit, il va faire une réservation, puis il va aller à l'hôtel. Donc, c'est facile, il y a de la place un peu partout maintenant. Mais à l'époque, l'hôtellerie était très rare et très dispendieuse. Donc, les missionnaires chrétiens n'avaient pas cette occasion-là de dire, OK, on s'en vient dans telle région, on va faire de l'évangélisation, on va faire des disciples, on va monter des églises. Puis on va aller rester à l'hôtel pendant ce temps-là. Donc, l'hospitalité était absolument nécessaire. Ce n'était pas juste une pratique de camaraderie, mais c'était vraiment une pratique obligatoire pour la survie de l'Évangile même. Et évidemment, ils n'avaient pas d'argent. Souvent, c'était même des croyants. Ces croyants-là n'étaient pas riches. Hein. Les chrétiens du premier siècle, il y avait Dieu merci, ils avaient pourvu à des gens qui pouvaient pourvoir à beaucoup de besoins. Mais pour la plupart des croyants, les gens étaient dépourvus de sous, et donc c'était une autre obligation, c'était une autre raison pourquoi ça devenait une obligation dans ce contexte-là. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, plus tard. Et un autre élément, je disais, un autre élément dans les éléments qu'on voit dans ce petit passage-là, les uns envers les autres. Ce qui semble un peu paradoxal ici, d'après moi. Hein, parce qu'on dit que l'hospitalité, c'est l'accueil de l'étranger, c'est d'aller vers l'étranger. Puis là, il dit les uns envers les autres. Mais les uns envers les autres, ce n'est pas nécessairement une façon générale à toute la population. Les uns envers les autres, dans le Nouveau Testament, ce qu'on voit, c'est simplement dans la communauté des croyants. Les uns envers les autres, c'est pratiquez-le les uns envers les autres dans le sens des gens de votre propre communauté, de votre propre réseau dans la communauté, dans l'assemblée. Donc, ce n'est pas seulement pour les gens éloignés, mais c'est aussi un exercice qu'on devrait faire les uns envers les autres dans notre propre milieu entre nous. C'est une façon qu'on devrait le pratiquer. C'est ce que Pierre nous dit. Et finalement, ce qui va être pas mal le sujet de ce matin, c'est sans murmure. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Bon. Quand on y pense, le texte ne nous dit pas grand-chose sur le type de murmure. Hein. En fait, on pourrait mettre ça par chiolage sans être irrité, avec joie. C'est vraiment ça l'idée, c'est sans murmure. Hein. On a vu dans l'Ancien Testament comment le peuple murmurait contre Moïse. Il se plaignait tout le temps, sans se plaindre, on pourrait dire aussi. Mais le texte ne nous dit pas pourquoi. Qu'est-ce que ça fait? Quel genre de murmure ou à quel sujet ces murmures-là sont traités? Mais on pourrait y penser un petit peu, puis je pense qu'on peut facilement faire le tour de la question. Bien, sans murmure pour la préparation. Bien recevoir, parce qu'on aime tous bien recevoir les gens, bien recevoir nécessite de la préparation. Donc, sans murmure, pas devant eux, parce que c'est rare qu'on fait la chicane devant nos invités. La chicane arrive avant. Quand les gens arrivent, on est content de vous voir. Mais dans la préparation, le fait d'avoir à préparer des choses, d'avoir à nettoyer la maison, rendre les choses propres, rendre les choses à notre goût, à notre façon de voir, ça demande un effort, ça demande un effort dans le temps aussi. Et donc, ça peut créer des tensions. Et donc, ça peut créer des murmures. Dans le coût aussi. Oui, mais ça coûte de l'argent ou bien recevoir? Ça dépend toujours. Bien recevoir, est-ce que c'est d'avoir le plat le plus coûteux sur la table, d'avoir les mets les plus raffinés? Je crois que non. Bien recevoir, c'est beaucoup plus dans mon sens à moi qu'on va voir ce matin. Dans l'attitude, bien recevoir, c'est dans la façon qu'on a d'avoir nos cœurs disposés, notre joie à recevoir, notre joie même dans la préparation et dans la joie quand on est avec nos invités. Donc, les murmures peuvent provenir du coût qu'on s'imagine que ça devrait coûter de recevoir les gens. Aussi, ça peut être dans les murmures, dans l'obligation de faire plaisir. Surtout quand on voit des gens pour la première fois, on veut faire plaisir, mais en même temps, ça nous coûte quelque chose. Il y a un coût dans ça. Et c'est vrai que ça reste un sacrifice que de recevoir bien des gens, parce que ça demande de sortir de sa zone personnelle et de en groupe, de garder un certain standing, un certain standard de façon de se présenter, de non-familiarité, de ne pas être comme on est tous les jours tout seul à la maison, quand on est tout seul à la maison. Il y a quelque chose là aussi qui peut, l'obligation de faire plaisir et de bien se tenir, c'est aussi peut-être une source de murmure. Un peu dans ce sens-là, toute la préparation du ménage et tout, toutes ces choses-là peuvent créer des tensions et créer dans notre cœur quelque chose qui dit « Pourquoi je les ai invités finalement? » Ça nous demande tellement. Est-ce qu'on devrait tellement recevoir? Ça nous coûte tellement d'énergie à chaque fois, les deux jours qui précèdent l'arrivée de nos amis ou des gens qu'on veut recevoir, puis on a dit « Pourquoi je ne me donne pas? Puis pourquoi je n'arrête pas de faire ça? Pourquoi je continue encore, encore et encore à recevoir des gens? » Ça me demande tellement d'énergie. Mais on peut se demander pourquoi on se met dans un tel état? Pourquoi on se met une telle pression? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hospitalité devrait être un geste d'amour. Pourquoi on se met dans un tel état de stress et de frustration pour un geste d'amour? Ça me semble un peu anormal. Pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. J'ai vu des gens recevoir, j'ai reçu moi-même, et régulièrement, ça crée ce genre de stress-là. Et donc, en quelque part, le geste d'amour est pour moi un peu paradoxal par rapport à l'état dans lequel on s'est mis juste avant que ça arrive. Pourquoi on se met dans un tel état? Je pense qu'aussi, on veut une préparation adéquate. On veut être bon, on veut bien paraître quand les gens viennent chez nous. On aime ça quand les gens sont bien accueillis, se sentent chaleureusement accueillis. On aime ça voir les gens confortables et agréables dans la situation dans laquelle on les invite. Alors, on met beaucoup d'efforts parce qu'on les aime aussi, ça c'est sûr. C'est pas juste du négatif, c'est pas juste par frustration qu'on se met dans cet état-là, c'est parce qu'on les aime. Alors, comment l'amour peut vraiment prendre vraiment sa place dans ce contexte-là sans qu'on ait cette attitude-là de murmure? Puis là, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut négliger la préparation, qu'il ne faut pas se préparer, qu'il ne faut pas faire le ménage jamais. Ils arriveront comme ils arriveront, puis c'est leur problème s'ils ne sont pas contents. Ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas une invitation à de la négligence que je veux faire. Mais simplement, on veut essayer d'évaluer ensemble le niveau avec lequel on est capable de véritablement manifester de l'amour à partir de l'invitation jusqu'à ce que nos invités soient partis. Et puis, je ne veux pas que vous pensiez que ce n'est pas important non plus de bien recevoir, que ce n'est pas important de bien recevoir vos invités. C'est très important. Je pense que ça fait partie de ce que c'est l'hospitalité que d'être agréable avec nos invités. Maintenant, dans tout ça, je pense que il y a un proverbe qui illustre un peu cette idée-là, c'est-à-dire de ne pas se mettre à un niveau de pression si élevé pour vraiment pouvoir vraiment être libre de recevoir. Et le proverbe dit ceci, c'est Proverbe 17, le verset 1. Proverbe 17, 1. Et je sais que si certains d'entre vous auront peut-être la difficulté à voir ce verset-là dans ce contexte-là, je serai libre pour en discuter avec vous de mon point de vue. Je ne vais pas débattre ce verset-là. Je crois que ce verset-là s'applique en partie à cette réalité-là s'applique bien aussi à l'autre vérité que je vais mentionner tout de suite après ça. Alors, Proverbe, chapitre 17, verset 1, nous dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Je ne pense pas que le texte nous parle spécifiquement d'hospitalité ici. Par contre, je pense que le proverbe s'applique dans son sens général, c'est-à-dire que vaut mieux une table moins bien garnie, mais là où il y a de la joie et on est en paix, que d'avoir une table bien préparée où les invités ne se parlent pas parce qu'ils sont en chicane ou ils sentent la tension ou la frustration. Alors, je suis conscient que le texte ne parle pas d'hospitalité, mais je crois que cette réalité-là de proverbe remet bien les choses à sa place. Aimez-vous mieux être reçu à une place où la bouffe est bonne, puis on a un festin devant nous autres, puis on ne se parle pas, puis on est tous sous tension? Vous aimez mieux qu'il y ait moins de nourriture, puis que les gens sont agréables et la soirée se passe bien? Je pense qu'on n'a même pas besoin d'avoir la réponse. C'est un peu ce que je voulais illustrer ici. Dans le sens de la pression qu'on se met pour recevoir à un niveau, fait en sorte qu'on ne reçoit pas finalement bien nos invités à cause de la pression qu'on se met d'élaborer quelque chose, de peut-être plus haut que ce qu'on devrait faire. On pourrait se poser la question suivante aussi. On répond à la question « Pourquoi on se met dans un tel état? » Peut-être aussi, chez certains, oui, c'est manifester de l'amour, mais en même temps, c'est une fierté personnelle. Ce qui cause cette frustration-là ou cette pression-là qu'on se met, c'est qu'on voudrait pas que nos invités disent « Ouais, on ne retournera plus chez les valades. Avez-vous comment ça se passe? » Fait qu'on veut que ce soit propre. On veut que les gens arrivent chez nous et disent pas « Hey, dans notre dos, après ça, en sortant, ils disent « Hey, c'est tombé sale. » Où on mange tellement mal chez eux, où c'est tellement pas agréable. Donc, il y a un côté aussi, je pense, qui met la pression entre nous, qui est la fierté. Puis je dirais même que certains en font un orgueil, une fierté démesurée. Merci pour ceux qui m'aident ce matin. Vous avez compris ce que je voulais dire finalement. Mais c'est ça que je veux dire. C'est cette idée-là de surenchérir à un moment donné n'est plus une question d'amour, mais c'est une question d'orgueil et de fierté personnelle, beaucoup plus que d'amour envers nos invités. On veut impressionner. C'est pas mal à la base nécessairement de vouloir impressionner jusqu'à un certain niveau où ça devient plus pour vous-même que vous faites ça que pour les gens qui viennent chez vous. Et c'est important de réaliser. On veut juste se rappeler qu'on est dans un passage qui nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Alors, des fois, on peut se dire « Mais ça peut être tellement négatif ce que je dis ce matin, mais le texte nous dit clairement sans murmure. » C'est donc, pour moi, clairement, si Pierre mentionne l'importance de le faire sans murmure, c'est que C'est facile d'avoir des murmures. C'est facile d'avoir cette attitude-là avant de recevoir les gens. C'est important d'avoir cette, soit à la pensée lorsqu'on prépare. Vous voulez mesurer à quel point c'est un geste d'amour que vous êtes en train de faire quand vous recevez? Vérifiez auprès de votre mari, vérifiez auprès de votre femme, vérifiez auprès de vos enfants comment ils subissent votre état intérieur. Comment ils subissent la pression que vous leur mettez? Comment ils subissent le fait que ça n'arrive pas en temps, que les choses ne se passent pas comme vous le voulez? Et vous allez savoir à quel point votre geste est un geste d'amour ou un geste beaucoup plus centré sur vous-même. Si ces gens-là subissent, est-ce que, je vais essayer de le mettre autrement, vous manifestez peut-être plus d'amour ou nous manifestons peut-être plus d'amour envers nos invités qu'envers les gens qui sont proches de nous à la manière dont on les reçoit. Et c'est la question à se poser. Si on veut savoir si on est en train d'avoir un impact positif, c'est pas juste dans la vie des gens qui vont arriver chez vous dans quelques heures, mais c'est les gens qui sont déjà dans la maison aussi en ce moment et qui vivent avec vous ce stress-là et qui subissent probablement ce stress-là de votre part. Et donc, là, on peut se poser la question si le geste est complètement imprégné d'amour. Maintenant, c'est pour ça que je disais que le proverbe que j'ai lu tout à l'heure s'applique très bien à ça. Vaut mieux une table avec du pain sec et la paix qu'une table remplie de viande avec les querelles ou les chicanes. Et je crois que ça s'applique aussi à cette réalité-là. Pas seulement envers vos invités, mais envers aussi les gens qui vous entourent, qui sont dans cette galère-là. Maintenant, ce n'est pas le but du message essentiel de ce matin. Ça, c'était pour présenter le texte qui nous dit comment pas faire, en fait, comment pas faire l'hospitalité, c'est-à-dire sans murmure. Alors, qu'est-ce qui provoque les murmures? Mais ce que je veux qu'on retienne, ce vers quoi je veux qu'on s'en aille ce matin, c'est, qui est pour moi le plus important, c'est qu'on devrait chercher de tout notre cœur à manifester Christ au travers de l'hospitalité, même au travers de la préparation. Nous devrions être en train de... Par l'hospitalité, c'est un geste que Dieu nous montre, nous dit. OK, par l'hospitalité, vous allez montrer davantage qui je suis. OK? Donc, vous devez de manifester de l'amour et l'amour qui est en Christ dans cette démarche-là. Ce n'est pas une démarche d'obligation, ce n'est pas une démarche de bien paraître, ce n'est pas une démarche, rien de ça. C'est simplement de manifester Christ au travers un geste que lui-même a fait envers nous. L'accueil. Maintenant, c'est un mot un peu différent, mais je crois que représente bien la pensée de Christ au travers de l'hospitalité. Comment on pourrait, au lieu de le faire juste sans murmure, on pourrait aller une étape plus loin et dire comment accueillir comment Jésus nous a accueillis? Comment présenter l'amour de Christ dans notre hospitalité à la manière de Jésus? Comment on pourrait être plus semblable à Jésus aux yeux de nos hôtes et de nos amis et de nos proches dans lesquels on pratique l'hospitalité? Et on va aller voir un peu ce que Jésus a à dire là-dessus. Et encore une fois, peut-être vous dites « Jésus n'a jamais reçu personne », peut-être que vous allez être surpris. Romains 15, 7, premièrement, c'est la base un peu de cette partie-là du message de ce matin. Romains 15, chapitre 7. Dans le contexte de Romains 15, 7, il est en train de parler justement de l'accueil que Jésus-Christ nous a fait ensemble à nous qui étions ses ennemis, à nous qui étions ses ennemis, des gens rebelles à sa volonté, à son autorité. Nous étions rebelles et nous étions sans force et il nous invite, lui, à accueillir les gens autour de nous de la même manière que lui nous a accueillis. Alors le verset nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Alors, je vous dirais, la première idée qui me vient en tête quand je regarde ça, c'est on doit accueillir comme Jésus nous a accueillis, c'est-à-dire avec amour, même dans la préparation. Hein? Avant que Jésus puisse nous recevoir dans l'éternité, il a fait un geste préparatoire qui était la croix. La croix, ce n'était pas le geste le plus facile et le plus simple. Hein? Nous, on prépare la cuisine, on fait le ménage, on trouve ça peut-être ardu, ça ne nous tente pas. Dans sa préparation à nous accueillir, Jésus-Christ est allé sur la croix. Beaucoup plus de préparation et beaucoup plus de souffrance en perspective. Dans son accueil, il a été vers nous. Il a pris l'initiative. On va développer ces points-là. Il a pris l'initiative. Il n'a pas attendu qu'on vienne à lui. D'ailleurs, ce ne serait jamais arrivé sinon. Mais il a pris, il a fait un plan, il a pris l'initiative et il est venu à nous et il a pris les moyens pour qu'on entre en relation avec lui. Même chose dans l'hospitalité, dans la façon d'accueillir les gens qu'on veut voir autour de nous, dans la façon de les approcher, c'est nous à prendre l'initiative. C'est à nous d'aller vers l'autre. Hein? C'est ça l'amour de l'étranger que je disais tantôt qui est le mot hospitalité. Aller vers l'autre. Ce n'est pas à l'étranger à venir quémander, c'est à nous à aller vers l'étranger pour l'accueillir. L'hospitalité, ce n'est pas non plus, dans cet esprit-là, un concours de celui qui va faire la meilleure réception, qui va s'échanger l'un l'autre, puis le prochain, il faut faire mieux encore. Puis là, quand l'autre reçoit le couple de nouveau, on en fait un peu plus, un peu plus, un peu plus. Pourquoi je dis que c'est accueillir comme Jésus-Christ l'a fait? Bien, Jésus, quand il a parlé du banquet, vous vous souvenez de cette histoire-là, du banquet, il va dire à un moment donné, il va dire, n'invite pas les gens qui peuvent te rendre l'appareil. N'invite pas les gens qui peuvent en faire autant que toi, qui peuvent te remettre ce que tu leur as donné. De sorte que ça devient juste un échange de bons procédés où on reçoit plus qu'on donne. Et Jésus a fait la même chose. Il a donné beaucoup plus qu'il a reçu dans cet exercice-là. Bien des gens se privent de recevoir et d'exercer l'hospitalité parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir être à la hauteur. Hein, si vous allez chez quelqu'un, vous êtes bien reçu, la nourriture était bonne, l'ambiance était agréable et tout était parfait, il y avait peut-être même 5 services au repas. Ces gens-là vont peut-être se dire, « J'inviterai jamais les valades à la maison parce que je me sens obligé de faire la même chose. » Et c'est là que ça devient important de réaliser que l'hospitalité, ce n'est pas un concours, ce n'est pas quelque chose pour impressionner, c'est un geste d'accueil qu'on propose aux gens. Il faut que les gens se sentent à l'aise. Alors, faire attention de ne pas toujours se renchérir lorsqu'on fait ça. On va vers l'autre, hein? On veut l'accueillir, on veut qu'il se sente bien, on ne veut pas qu'il se sente mal à l'aise, de dire « Hey, j'ai été tellement bien reçu que je me sens gêné. » Il faut que cet accueil-là vers l'autre nous donne « Hey, j'ai le goût d'inviter les valades la prochaine fois. » On a tellement eu du bon temps ensemble. Pas le repas était tellement bon, puis je serais prêt à faire la même chose. C'est pas ça la question. Alors, d'aller vers l'autre dans cette démarche-là, de faire ça pour l'autre, c'est aussi de pas seulement de penser en termes aussi de pas avoir qu'il y ait d'échange, qu'il n'y ait pas nécessairement de retour d'ascenseur dans cette affaire-là. Donc, de faire attention à vos invités dans cette manière-là aussi. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a à voir avec recevoir des gens puis avoir faire de l'accueil puis de l'hospitalité? Peut-être que vous dites même, « Oui, mais c'est facile pour Jésus. » Jésus, quand il a reçu 5000 personnes un jour à souper, on lui a juste donné 5 pains, 2 poissons, puis il s'est arrangé avec ça. Il n'a même pas eu à faire la vaisselle puis ramasser en plus ensuite à la fin du repas. Peut-être qu'on se dit, peut-être que Jésus, c'est facile pour lui d'aller vers ça. Il est Dieu et tout ça, et il est capable de multiplier tout ça. Et donc, ce n'est pas d'effort pour lui. Mais l'accueil que Jésus-Christ nous a offert, ce n'est pas dans ce repas-là, mais bien dans l'amour qu'il nous a manifesté à travers de la croix, en s'humiliant, en venant sur la terre et en allant jusqu'à la croix pour nous, pour que nous puissions entrer en relation avec lui d'une façon éternelle. Maintenant, voyons ensemble les caractéristiques de comment Christ nous a accueillis et comment nous pouvons faire la même chose que lui. D'abord, je l'ai dit tantôt, il a pris l'initiative. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en application pour nous aujourd'hui dans ça? Prenons l'initiative. Invitons des gens. Est-ce qu'on est obligé de faire un repas pour inviter puis exercer l'hospitalité? Bien sûr que non. Ça peut être un café, un dessert, une soirée. L'hospitalité, c'est d'accueillir les gens chez nous. Mais c'est surtout de prendre l'initiative, de le faire. Si vous attendez que les autres prennent l'initiative, vous savez ce qui va arriver, personne ne le prendra. Alors, c'est à nous de prendre l'initiative comme Christ a pris l'initiative pour nos vies. Si nous voulons manifester le même amour que lui. Sans reproche ou sans murmure. Christ n'a pas dit « Ah non, pas vrai. » Je regarde Sébastien, là, puis je dis « Il ne mérite vraiment pas que j'aille mourir sur la croix pour lui. » En fait, c'est vrai, je ne le méritais pas. Mais en même temps, il ne s'est pas dit « Ah, il ne mérite pas, ça ne me tente donc pas d'y aller. » Ce n'est pas du tout ça que l'attitude de Jésus-Christ. On doit avoir la même attitude, sans murmure et sans reproche, avec joie. Il a pris soin de nous. Il savait qu'on était incapable d'aller vers lui. Il savait qu'on était incapable de gagner cette vie éternelle-là. Il savait qu'on était incapable de marcher par nous-mêmes. Il savait qu'on était incapable d'obéir à ses commandements. Alors, il a pris soin de faire le pont pour nous. Prenons soin comme application. Prenons soin de nos invités. Cherchons à leur plaire. Cherchons à faire plaisir à nos invités, à ce qu'ils se sentent à l'aise chez nous, confortables, un peu comme le titre qui est écrit là, « Faites comme chez vous », qu'ils se sentent à l'aise dans votre présence, qu'ils ne se sentent pas mal à l'aise. Alors, dans ce sens-là, on peut imiter cette idée-là de Jésus. Jésus a fait ce geste-là d'accueil pour notre bien. Alors, cherchons le bien de nos invités, le bien et le bien-être de nos invités. Quelque chose encore plus grand maintenant. Jésus ne l'a pas fait pour sa propre gloire. Il nous a accueillis dans une relation avec lui, pas pour sa propre gloire, mais pour celle de Dieu. Il nous a accueillis pour la gloire de Dieu, le texte nous dit. Il nous a accueillis, et faisons de même, que notre accueil soit à l'image de, ou soit avec l'objectif de manifester et de reproduire la gloire de Dieu. Ce, autant dans l'application, mais aussi dans la préparation, de sorte que ce n'est pas une façade. Quand on arrive devant les gens, ce n'est pas une façade. On est content de vous voir, on est surtout content que c'est fini tout ce qu'on a mis de stress dans la dernière journée. Non, on est content de vous voir, on est dans l'attente de vous voir, on a préparé les mets. Dans la joie de vous attendre, on a voulu une maison propre et accueillante. Une toute autre attitude. Mais dans quoi? Dans l'esprit de manifester la gloire de Dieu. Que Dieu puisse avoir une petite chandelle dans votre maison cette journée-là pour manifester sa présence aux gens qui sont autour de vous. Peut-être même à des gens qui ne sont pas encore croyants. Et ce sera l'occasion d'être une manifestation de sa présence, peut-être la seule qu'ils auront au cours de cette année ou de cette vie, de qu'est-ce que c'est aimer véritablement comme Jésus-Christ nous a aimés, d'accueillir comme Jésus-Christ nous a accueillis. Dans la façon qu'il nous a accueillis, Jésus-Christ aussi, pour le salut, on peut prendre exemple sur, il n'a pas regardé notre condition, il n'a pas regardé dans l'état dans lequel on était. Il n'a pas regardé le fait qu'on était des rebelles, des méchants, qu'on ne l'aimait pas, qu'on était contre lui constamment, qu'on est toujours en train de pécher contre lui. Il n'a pas regardé à cette condition-là du tout. Il n'a pas regardé l'aptitude qu'on aurait peut-être de retourner l'appareil. Il a juste regardé à qu'est-ce qu'il pouvait faire pour nous, de la façon qu'il pouvait manifester ça pour nous. Faisons de même. La même chose pour nous ce matin. Quand on pratique l'hospitalité, donnons pas avec espoir de retour. Donnons pas avec espoir ou avec à quelqu'un parce qu'on sait qu'il y a les moyens de nous recevoir en retour de la même manière. Ne faisons pas de discrimination avec les gens qu'on reçoit. Et là, on va commencer davantage à recevoir et accueillir comme Christ nous a reçus nous-mêmes. Une bonne façon de se rappeler ça, rappelez-vous dans quel état vous étiez lorsque Christ s'est fait connaître à vous, il vous a accueilli dans une relation avec vous. Rappelez-vous la manière dont vous avez été accueilli par Jésus-Christ, quelle chaleur vous avez senti de sa personne, quelle générosité, quelle compassion. Et ces choses-là devraient être l'arrière-pensée que vous avez lorsque vous exercez l'hospitalité. Je vais conclure en résumant un petit peu les grandes idées qu'on a vues ce matin ensemble et en même temps en faisant appel à renouveler cette habitude-là qui est perdue dans nos églises. Je dis perdue parce que pour moi, au travers des dernières 27 ans, je n'ai pas vu ça énormément à travers les croyants, à travers différentes églises dans lesquelles j'ai été, dans différentes communautés. Alors, ce qu'on a vu ce matin, c'est que l'hospitalité n'est pas une option pour le croyant qui veut manifester l'amour de Christ. Si vous voulez manifester l'amour de Christ, si vous voulez obéir à Christ, vous devez exercer l'hospitalité. Ce n'est même pas une option. On a vu que l'hospitalité doit se pratiquer autant envers l'étranger, la personne qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, que nos proches autour de nous dans notre communauté. Ce n'est pas une pratique pour simplement rendre service. L'hospitalité est une action que l'on pratique pour exercer l'amour les uns envers les autres et manifester la gloire de Dieu. On a vu que l'hospitalité devrait manifester de l'amour, pas seulement au moment où on reçoit les gens, où on dit qu'on est content de les voir, tout autant envers les gens qui sont proches de nous, qui nous aident à préparer cette réception-là. Cet amour-là devrait être présent du point A au point Z de la réunion. Et même quand les gens partent, quand on a ménage à faire, notre joie, ça devrait être de dire, « Wow, on a eu l'occasion, on a eu le privilège de recevoir des gens. Bien, on peut faire maintenant le ménage et dire, on était content d'avoir ces gens-là avec nous pour la soirée ou pour la semaine ou quoi que ce soit. » En fait, et surtout ça que je veux qu'on retienne dans tout ça, c'est qu'on a vu que l'accueil de l'autre doit manifester les caractéristiques que Jésus a manifestées en nous accueillant, en vous accueillant auprès de lui par son sacrifice à la croix. Alors, je vous invite fortement, fortement à exercer l'hospitalité. Et ce qui est mon, peut-être mon appel, qui devient quasiment à la fin de tout ça, qui vous, peut-être vous semblez paradoxal, mais vous savez, Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à de recevoir. Si vous vous mettez à pratiquer l'hospitalité d'une façon systématique et intentionnelle, parce que c'est ça, si on dit qu'on veut le faire, ça devient un vœu pieux. Mais je vous invite à mettre ça intentionnel dans votre calendrier, systématiquement inviter des gens à venir chez vous, à exercer l'hospitalité. Et ce que vous allez réaliser, c'est que même si ça vous coûte quelque chose en sacrifice, en temps, en argent, en ressources, des fois en temps de qualité qu'on voudrait garder pour nous-mêmes, et je ne dis pas d'éliminer tout ça de vos vies, mais à partir du moment où vous allez exercer d'une façon intentionnelle l'hospitalité, vous allez voir que vous allez bénéficier au moins autant que la valeur que vous allez avoir investie avec la joie. Et vous n'aurez pas les regrets des murmures que vous aurez peut-être pratiqués auparavant. Alors, je vous invite vraiment à remettre ça à l'ordre du jour dans votre calendrier. Remettez l'idée de l'hospitalité, d'exercer cet accueil-là pour manifester la présence de Jésus-Christ dans vos relations autour de vous. Alors, je vais prier pour terminer. Alors, Seigneur Dieu, on veut, dans cette ère d'abondance, on ne devrait pas avoir de regrets, avoir d'hésitation à exercer l'hospitalité, à manifester l'abondance dans laquelle tu nous places pour la faire répandre sur les gens autour de nous. Et Seigneur, ce n'est pas nécessaire d'être riche, d'avoir beaucoup de moyens, d'avoir une coutellerie fine pour recevoir, Seigneur. Ça prend simplement l'amour sincère qui est en nous, par toi, pour la manifester et la répandre autour de nous et que nous puissions exercer cette hospitalité-là qui va nous rendre beaucoup plus près de ton image et qui va manifester ta gloire autour de nous. Amen.